les amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en 5 épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, monsieur le professeur Philippe Aquileas, professeur de droit à l'Université Paris-Sud, Paris-Saclay, directeur de l'IDEST et du Master de droit des activités spatiales et des télécommunications, nous dessine les contours du droit de l'espace. Deuxième épisode, à qui appartient l'espace ?
Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
Bonjour aux auditeurs d'Amicus Radio, je pense que vous avez tous reconnu le générique de Star Trek. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de droit de l'espace et répondre à cette question souvent posée, mais à qui appartient l'espace extra-atmosphérique ? C'est une des questions qui fait l'objet d'un article fondamental du traité de l'espace de 1967. L'article 2 du traité de l'espace porte en effet sur la non-appropriation. Et cet article précise, je cite, « L'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peut faire l'objet d'appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d'utilisation ou d'occupation, ni par aucun autre moyen. Les choses sont donc claires, toute forme de propriété est interdite dans l'espace extra-atmosphérique. » Les choses sont plus claires lorsque on lit l'article 11 de l'accord sur la Lune qui a été signé en 1979, puisque cet article souligne que l'espace ne peut devenir la propriété d'aucun État, d'aucune organisation internationale, d'aucune organisation non gouvernementale, d'aucune entité privée, d'aucune personne physique. Nous avons donc un régime de non-appropriation qui établit une différence avec le régime de l'espace aérien, puisque l'espace aérien est soumis au principe de la souveraineté de l'État sous-jacent. Ce principe découle de la Convention de Chicago, l'article 1 de la Convention de Chicago de 1944 sur l'organisation de l'aviation civile internationale. Pour rappel, la distance qui nous sépare de l'espace extra-atmosphérique est d'environ 100-110 km, mais cette limite n'a pas été inscrite dans le droit. Donc juridiquement, au regard du droit international, cette limite ne figure pas dans un traité. On pense que c'est une coutume internationale. Et donc, au-delà de la limite des 100 km d'altitude, vous êtes dans l'espace extra-atmosphérique, donc dans une zone qui n'appartient à aucun État, donc dans une zone de liberté. La liberté de l'espace est en effet la contrepartie du principe de non-appropriation de l'espace. Autrement dit, vous avez la possibilité de placer un satellite au-dessus du territoire d'un État sans demander l'autorisation à cet État, alors que lorsque vous pénétrez l'espace aérien de ce même État, vous devez demander une autorisation. Nous avons donc un régime qui est proche du régime prévu pour la haute mer en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay en 1982. L'espace extra-atmosphérique est donc une zone internationale insusceptible d'appropriation. En réalité, les choses se compliquent lorsque l'on aborde le traité de la Lune. Donc, accord signé en 1979, principalement à la demande des pays en voie de développement qui voulaient inscrire le principe selon lequel la Lune et les autres corps célestes de notre système solaire sont patrimoine commun de l'humanité. Donc, c'est ce régime de patrimoine commun de l'humanité, prévu par l'accord sur la Lune, implique que la Lune, les autres corps célestes, mais aussi les ressources ces corps célestes appartiennent à l'humanité tout entière. Nous sommes donc tous propriétaires de la Lune et de ses ressources. Et l'accord sur la Lune poursuit en soulignant que lorsque l'exploitation commerciale des ressources des corps célestes sera possible, les États devront mettre en place un régime international pour organiser cette exploitation et pour prévoir également, dans une certaine mesure, la répartition des bénéfices issus de cette exploitation entre les États parties à l'accord sur la Lune. Donc vous voyez que c'est un régime extrêmement idéaliste et qui rejoint d'ailleurs ce qui existe en droit de la mer, puisque au regard de la convention de Montego Bay, les grands fonds marins, ce qu'on appelle la zone, sont également caractérisés par le principe de patrimoine commun de l'humanité. Il existe d'ailleurs une organisation internationale, l'autorité des fonds marins, qui a été établie pour organiser l'exploitation des ressources des fonds des mers. On comprend que ce concept fâche les puissances spatiales qui préfèrent maintenir une liberté commerciale sur les corps célestes. Et c'est la raison pour laquelle l'accord sur la Lune a été ratifié par très peu d'États et aucune puissance spatiale n'a soutenu cet accord. Nous avons donc deux régimes, hein, pour résumer. En vertu du traité de l'espace, l'espace extra-atmosphérique n'appartient à personne. En vertu de l'accord sur la Lune, les autres corps célestes et leurs ressources sont patrimoine commun de l'humanité, ils appartiennent à tous. En 2015, les États-Unis vont remettre en cause ce principe en adoptant le Space Resource Exploration and Utilization Act. La loi vise à mettre en place un régime de licence permettant aux entreprises privées d'exploiter les ressources naturelles des corps célestes et, bien entendu, de les vendre. Le Luxembourg, 2 ans plus tard, en 2017, adoptera la loi concernant les ressources spatiales ayant le même objectif. Et nous savons aujourd'hui que d'autres pays s'apprêtent à adopter des législations similaires, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, pour ne citer qu'eux. Le Japon est quant à lui très intéressé par la possibilité d'exploiter la Lune et ses ressources. Alors que fait-on du principe de non-appropriation de l'espace ? Tous ces pays ont signé le traité de l'espace de 1967 et entendent le respecter. Ils considèrent d'ailleurs que leur législation nationale est conforme avec le traité. Comment justifier cette conformité avec le traité de l'espace ? Bien, les États-Unis vont vous expliquer que l'article 2 du traité de l'espace ne mentionne que l'espace extra-atmosphérique et les corps célestes, mais ne mentionne pas les ressources. Dès lors, il serait possible d'exploiter les ressources des corps célestes, sans pour autant s'approprier le corps céleste lui-même. Malheureusement, très peu d'États se sont opposés à la position américaine, car tous savent, et en particulier les puissances spatiales, que les fonds publics ne permettent plus de soutenir l'aventure spatiale, et qu'il faut impérativement associer la sphère privée, et donc pour cela donner des garanties de retour sur investissement. Aujourd'hui, quelques entreprises se sont lancées dans l'exploitation des ressources des corps célestes. Il ne faut pas croire que l'objectif, c'est de ramener les ressources sur Terre pour les traiter. C'est plutôt de traiter les ressources dans l'espace pour soutenir les missions interplanétaires. C'est-à-dire, certains projets visent à exploiter l'eau en présence sur la Lune afin de fournir de la ressource aux équipages, mais aussi de créer du carburant dans l'espace pour permettre de poursuivre en fait un voyage vers d'autres planètes. En somme, en imaginant qu'on puisse mettre en place une station d'accueil sur la Lune, il serait possible de partir depuis la Lune pour conquérir Mars grâce à l'eau et au carburant qui seront disponibles par l'exploitation des ressources naturelles de la Lune. Je vous laisse méditer à cela en écoutant Walking on the Moon de Police.
Cet épisode des Amphides Amicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Blomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphis d'Amicus.